Nous sommes au lundi 4 septembre de l'année de grâce 2023. Il sonne 11h, passé de quelques minutes, alors sur votre radio, la nouvelle génération. Vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la presse qui prend son envol. Michel Vitogbe Koku Tomega est à la mise en onde alors de cette émission. La mise en ligne est assurée par Jérôme Akucha. Je suis au micro Pascal Losso. Club de la presse, c'est avec nos radios partenaires, Radio Lumière à Anero, Radio La Paix à Takpame, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et Radio Courtoisie dans le grand nord du pays à Dapan. Nous n'allons pas oublier nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins, grâce à qui alors vous pouvez alors nous suivre partout dans le monde entier. Club de la presse, c'est le débat, l'analyse, le décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec nos confrères journalistes en studio avec moi, confrères journalistes déjà présents sur ce plateau avec moi, Jean-Baptiste Atissot. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Pascal. Bonjour aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Et
j'espère que vous allez bien.
À travers le monde, oui, je rends grâce à Dieu.
D'accord.
On est en santé.
Vous avez bien passé le week-end ?
Ah, on remercie Dieu avec les plus successives qui se sont abattues sur Lomé depuis samedi. Et on rend grâce à Dieu. Bon, on a eu la fraîcheur, mais voilà. De l'autre côté, les dégâts que nous ne saurions passer sous silence.
D'accord, nous allons en parler dans quelques instants. L'autre confrère qui est si proche de vous, c'est Jacques Diakouti. Jacques, bonjour.
Bonjour, je salue les auditeurs, auditrices de Canal FM. Je souhaite un excellent mois de septembre à tous ceux qui nous écoutent actuellement et ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, qui souffrent actuellement. Je leur souhaite une prompte guérison.
Voilà. J'espère que vous avez bien passé le week-end.
Oui, ça va. Comme mon confrère le disait tout à l'heure, sous la pluie. Hier, c'était dimanche, un jour béni. Mais il faut reconnaître que nous avons eu une double bénédiction et la messe et également la pluie qui a causé quand même des dégâts dans certains quartiers où nous souhaitons à tous nos compatriotes qui sont inondés actuellement, beaucoup de courage. C'est pas si facile.
C'est vrai, Jean-Baptiste, il y a la météo qui a annoncé même d'ailleurs ces pluies, puisqu'on nous dit qu'il y aura des pluies abondantes, même d'ailleurs dans cette saison. Mais il est très important quand même qu'on prenne des dispositions, puisque l'alerte a été lancée, par la météo. Et le ministère même d'ailleurs de la Sécurité et de la Protection Civile a réitéré cet appel en disant même d'ailleurs qu'il y aura même d'ailleurs des inondations dans certains quartiers, mais il faudrait quand même qu'on prenne les mesures nécessaires pour que du moins ces inondations, ou du moins nous n'assistons pas à ces inondations.
Oui, bon, je crois que prendre les mesures nécessaires, les autorités le disent, mais je crois que les actes doivent suivre, parce que depuis plusieurs années, et plusieurs autorités ont quand même exprimé leur désir de mettre fin aux inondations, mais je crois que on assiste malheureusement à chaque pluie dans l'un ou l'autre quartier de Lomé, la capitale, à des inondations. Et la dernière samedi, déjà avec la première pluie du week-end, je crois que beaucoup de quartiers ont été inondés, et notamment, quand nous prenons par exemple Kedjanaoué, au niveau de la pharmacie Bézé, non loin de l'immeuble Air Burkina, je crois qu'il y a une rétention d'eau qui est en train d'être aménagée par le Golfe 2, la mairie du Golfe 2, depuis plusieurs mois, mais qui n'est pas achevée malheureusement. Et à ce niveau-là, ceux qui habitent le quartier peuvent témoigner, c'est beaucoup, même le goudron, des deux côtés du goudron, sur le boulevard Jean-Paul II, c'était inaccessible samedi jusqu'à hier, tard dans la journée, que l'eau a pu quand même libérer la voie pour que les usagers puissent quand même circuler sans beaucoup de heurts. Et idem pour d'autres, quand avenue à Kéy, vous prenez la voie là aussi, pareil, beaucoup de riverains des lacs qui sont là-bas aussi ont été vraiment inondés. Et je crois que les autorités ont encore du pain sur la planche en ce qui concerne l'assainissement de la ville de Lomé. Il faut vraiment penser. S'il faut au même moment où on cherche à assainir, à créer des rétentions d'eau, il faut aussi penser à comment évacuer le trop-plein.
La canalisation.
Parce que parfois, on estime que quand on crée des rétentions d'eau, ça suffit simplement pour pouvoir retenir les eaux pluviales, mais parfois, avec le dérèglement climatique que nous connaissons dans nos pays, je crois que les pluies s'annoncent plus diluviennes, plus grandes que ce que nous connaissions par le passé. Et aujourd'hui, le triste constat, c'est que c'est plusieurs, nombreux de ces, comment appelle-t-on, rétentions d'eau sont débordés par les eaux de pluie, et puis beaucoup d'habitations en pâtissent, malheureusement. Donc, c'est le lieu de penser à des exutoires, et au moment où ces points de rétention seront débordés, pour que cela puisse être canalisé vers d'autres endroits pour l'assainissement de la ville.
Merci. Jacques, c'est vrai qu'il y a des rétentions d'eau qui sont construites ces dernières années dans notre pays, mais au même moment, quand il n'y a plus, les populations doivent se plaindre parce qu'ils doivent affronter l'inondation.
Oui, je disais tout à l'heure que vraiment nous souhaitons beaucoup de courage à nos compatriotes dans certains quartiers, parce qu'il y en a qui ne peuvent même pas sortir de leur maison parce que tout le quartier est inondé. Vous savez, il est vrai que nous rappelons tout le temps par rapport à l'urbanisation de notre capitale, les routes qui sont souvent construites, mais il n'y a pas souvent les canalisations où l'eau peut également passer. Et l'autre aspect également, les constructions anarchiques. Le gouvernement ne contrôle pas souvent les constructions. Il faudrait aujourd'hui, vous voyez, certains nouveaux quartiers qui sont viabilisés aujourd'hui par des populations, il faudrait que l'État puisse penser comment faire effectivement pour ne serait-ce que installer certaines infrastructures avant que la population n'aille. Parce que plus la population construise, plus nous aurons également des problèmes. Parce que l'espace où l'eau devait passer pour ne pas avoir des inondations, l'eau est obligée de rester sur ces espaces-là et ça crée des problèmes à nos compatriotes. Il faudrait aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'on construit des routes, mais quand vous voyez l'évacuation au niveau des eaux, c'est-à-dire les canalisations, c'est pas du tout ça. Et on a parlé également des lieux de rétention d'eau. C'est vrai qu'on en construit, mais quand il n'y a pas un moyen pour que l'eau là soit évacuée, il faut s'attendre à ce qu'on ait également ces problèmes. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand vous circulez dans certains quartiers, je vous dis Pascal, vous ne pouvez pas circuler dans certains quartiers parce que les routes même, c'est des problèmes. C'est le lieu d'inviter une fois encore. C'est vrai qu'on invite l'État, on doit également inviter également les mairies. Et l'autre aspect également, il y a des compatriotes qui ont des moyens dans certains quartiers qui peuvent quand même rembler certaines voies pour aider les populations riveraines à pouvoir effectivement circuler. Aujourd'hui, dans certains quartiers, par rapport aux routes secondaires, vous ne pouvez pas du tout passer. C'est la croix et la bannière. Et c'est le lieu également d'inviter une fois encore l'État, le ministère des Travaux publics et le ministère également des Puces rurales. Ne serait-ce que, on l'a toujours dit, si l'État peut prendre, ne serait-ce que pour essayer de bitumer une voie par quartier par an, Pascal, je vous dis que nous serons loin. Parce que plus on laisse les voies à cet état, et quand il pleut, il y a des problèmes pour circuler. Donc je crois que la responsabilité nous incombe également à l'État. Parce que population que nous sommes, lorsque, par exemple, on met également les passages d'eau, il ne faudrait pas également que nous puissions, lorsque nous balayons nos maisons, nous essayons de mettre les plastiques et qui bouchent également ces canalisations, et l'eau n'arrive pas à circuler. Donc la responsabilité est à deux niveaux. La responsabilité d'abord que nous qui sommes les populations, la responsabilité également de l'État, l'État qui gère effectivement le pays. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, si vous rentrez dans certains quartiers, Pascal, vous ne pouvez pas circuler. Et vous savez qui dit que les zones sont stagnées, il faut attendre également à vivre également le paludisme. Parce que actuellement, quand vous allez au niveau des pédiatries, au niveau des hôpitaux, les enfants sont vraiment malades. Et c'est le palud. C'est pas un palud simple. Hein. Souvent, on vous parle d'un palud chronique. Donc, je crois que ça, il faudrait également que le ministère de la Santé essaie de pulvériser également ces lieux-là où l'eau stagne pour que ça ne constitue pas également un lieu, un nid, effectivement, des moustiques qui vont encore créer des problèmes à nos populations.
Nous sommes rejoints par notre confrère Didier Assogba. Didier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour à mes aînés.
J'espère que tu as bien passé le week-end.
Oui, ça va, par la grâce.
Nous sommes en train de discuter alors de cette question d'inondation hein, qui court aujourd'hui dans nos quartiers avec la petite saison avec des pluies abondantes. La météo l'a annoncé aujourd'hui. Est-ce qu'on ne doit pas quitter aussi, ou on ne doit pas sortir plutôt alors de l'alerte à donner et faire donner plutôt alors des mesures ou avoir des mesures concrètes pour que du moins ces inondations n'aient plus lieu?
Non, et vous, les alertes de la météo, vous voulez dire?
Tout à fait.
Oui, et qu'est-ce que la météo, elle autre, peut faire? Je pense qu'il y a, dans un passé récent, on faisait le procès à la météo Togo de ne pas pouvoir être en mesure de nous alerter et de nous situer sur la pluviométrie et sur les saisons. Maintenant que ces choses faites, hein, cette direction a été dotée ou s'est dotée de matériel et de moyens de pouvoir nous prévenir d'avance, et je pense que elle fait déjà sa part un peu partout dans le monde. Toute société, les météos ne peuvent que prévenir, ne peuvent que annoncer et donner l'alerte. Maintenant, sur la question des inondations, quitte à reposer la sempiternelle question des infrastructures, de la construction même des infrastructures, de leur suivi et de la maîtrise d'ouvrage de ceux qui contrôlent et inspectent ces travaux-là. Moi, je vis à Huiti, j'ai vu le bassin de rétention d'eau qui a été construit, qui a été construit là-bas. C'est une nouvelle construction. Bon, ce bassin existait depuis des lustres. Je parle sous le contrôle de Jean-Baptiste qui vit pas très loin de là-bas aussi. Et donc, ce bassin existait depuis et on a constaté qu'il y a un souci au niveau de ce bassin. Et on a décidé de rénover. On a vu façon dont les travaux ont été faits là. Et aujourd'hui, ce bassin pose beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout. Donc, on se demande qui conçoit les projets et qui les exécute. Je pense que pour qu'on arrive à subjuguer la question des inondations dans le pays, il faut reposer ces questions-là et veiller à ce que les nouveaux ouvrages, les nouvelles constructions d'infrastructures respectent les normes et prennent en compte la situation que nous vivons et que les populations vivent au jour le jour. On ne va pas dire que rien n'est fait, on salue quand même ce qui se fait, mais est-ce que les travaux, les ouvrages qu'on met en place répondent véritablement au problème qui est posé? Parce que la question de l'inondation à Lomé, ce n'est pas nouveau. Vous savez qu'il fut un temps, c'était tellement un grand problème, au point où l'État a dû demander l'appui des bailleurs qui ont aidé à construire quelques ouvrages, et à la construction de ces ouvrages, on a vu qui avait un léger mieux, au point où le chef de l'État s'en est vanté un peu à Londres un temps. Et vous voyez, c'est la vidéo que les gens ramènent à chaque fois que Lomé replonge dans les inondations aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut poursuivre peut-être dans cette lancée-là. Pourquoi pas faire un péri 2 ou je ne sais pas, un péri 3 ou... Voilà, bon, Péris, ça c'est Puris, hein. Je veux parler du projet Puris plutôt, oui. Parce qu'à l'époque c'était le projet Puris qui avait permis de régler beaucoup de problèmes d'inondation dans
avec la construction des infrastructures.
Justement, avec des collecteurs, avec des canaux, avec beaucoup de choses, projet Puris financé par la Banque mondiale.
Tout à fait.
Donc pourquoi pas demander un Puris 2, un Puris 3 ou je ne sais pas, pour que au moins ces collecteurs se multiplient et que les eaux, on connaît maintenant les quartiers qui sont, je veux dire, dont le nivellement n'est pas au même niveau, on peut canaliser l'eau jusqu'à la lagune peut-être, ou jusqu'à la mer, pourquoi pas. Je pense qu'on peut reprendre un certain nombre de travaux dans ce sens-là pour permettre d'éliminer la quantité d'eau à chaque fois. Mais ce samedi, j'étais dans la périphérie, je dis dans la périphérie, dans les zones d'Agoé, par là et tout ça, et je longeais le grand contournement, j'étais tombé des nues.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais sur plusieurs pans de la route, on ne pouvait pas circuler parce qu'il pleuvait, et vous voyez la quantité d'eau qui stagnait sur le grand contournement, sur le goudron. Mais vous vous demandez qui a pu concevoir cette route et qui n'a pas pensé mettre collecteur ou je ne sais pas. Vous voyez, vous tombez des nues, mais c'est une nouvelle route, là, le contournement.
Justement.
C'est une nouvelle route. Et si cette fois, une nouvelle route, il pleut sur deux jours, on ne peut pas circuler sur une bonne partie de la route, ça pose un véritable problème. Et donc, la météo a bien fait de donner l'alerte. On va en avoir sur les épaules jusqu'en novembre, selon la météo. Donc, 3 mois, peut-être dans l'eau. Certains deviendront des batraciens, mais il va falloir que l'État réfléchisse à ce comment on réalise. C'est parce que l'eau est en train de s'agrandir, les problèmes vont se multiplier dans la périphérie. Si on n'arrive pas à résoudre dans le périmètre du Grand Lomé aujourd'hui, vous imaginez quand Lomé va se coller à, je sais pas,
Thévier,
va se coller à Mwepe, va se coller à Oussa, Michintové, partout là. Bon, comment est-ce que ça va être si on n'arrive pas à maîtriser aujourd'hui? Donc, ça est une question de vision, ça est une question de pragmatisme. On commence dès maintenant. Les populations vont supporter pour un temps, mais il faut que, à partir de l'année prochaine, peut-être qu'on réoriente autrement le débat.
Jean-Baptiste, est-ce que c'est finalement, est-ce que vous arrivez à comprendre le fait que déjà à moindre plus, il y a les bassins de rétention qui sont totalement remplis et que finalement ça crée plutôt alors de l'inondation alors dans ces quartiers qui sont riverains à ces rétentions d'eau.
Bon, le problème reste le même, hein, parce que nous disons peut-être c'est la capacité de ces bassins de rétention qui n'est pas grande. Donc il va falloir à l'instant T, s'il n'y a pas possibilité d'agrandir la capacité ou bien les capacités de ces bassins de rétention, alors ce qui pourrait être à portée de main, c'est de chercher à ce que quand il y a débordement, quand ces bassins seront débordés, de penser immédiatement à une autre forme de canalisation, mais vers où? La question va être posée à ce niveau. Si les bassins en plein centre-ville qui sont débordés, le surplus va être envoyé vers où? C'est pourquoi il faut peut-être, je ne sais pas si c'est des canalisations.
Et d'habitude, la canalisation est envoyée vers la mer.
Vers la mer, oui, canalisation souterraine.
Justement.
Où on va diriger ça vers surtout la mer, comme tu l'as dit tantôt. Comme ça, mais là, il va falloir qu'il y ait l'intervention humaine. Parce que si on communique, on relie ces bassins à la mer directement. Alors, s'il n'y a pas, on ne bouge pas d'un côté donné, donc vous allez voir que c'est plutôt la mer qui va faire le chemin inverse pour venir remplir ces bassins de rétention. Donc là, il va falloir que les techniciens, ceux qui se connaissent en la matière, viennent quand même pour étudier tous ces bassins-là qui sont construits dans le Grand Lomé, dans le Grand Lomé, pour que lorsque les eaux pluviales vont déborder ces bassins, comment les réorienter vers la mer pour que cela ne puisse pas rentrer dans les concessions, dans les maisons, pour inonder les riverains de ces bassins.
Jacques, certains analystes dans le domaine même disent qu'il est très important aujourd'hui que Lomé ait un autre plan d'urbanisation.
Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au nouveau quartier qui s'installe aujourd'hui. Il faudrait effectivement que l'État prenne les taureaux par les cornes. C'est-à-dire en commençant, ne serait-ce qu'installer certaines infrastructures avant que les populations n'y aillent. Mais on se tait, on ne fait rien. On laisse effectivement les populations s'installer Après, maintenant, on crie non, qu'il y a un problème. Mmh. Ouais, donc, il faudrait que l'État puisse anticiper par rapport à ces problèmes-là que nous sommes en train de rencontrer. On l'a dit tout à l'heure, quand vous prenez les voies secondaires dans certains quartiers, je vous dis que c'est des problèmes. C'est des problèmes. Vous voyez, les gros camions, effectivement, qui vont ramasser du sable. Et entre-temps, pour aider les populations riveraines, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse de la latérite. On essaie de mettre, effectivement, sur ces voies-là. Et après, quand il pleut, c'est ça même encore qui détruit les voies et les routes secondaires dans notre capitale. Mmh. Donc, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que l'État ait le courage. Hein. Avoir le courage, c'est de dire à vos populations, là où vous êtes en train d'acheter, là où vous voulez construire, c'est pas du tout possible. Et c'est le lieu également d'interpeller l'État, de demander à l'État de commencer par réfléchir sur effectivement les logements sociaux. Hein, par rapport à nos populations. Parce que s'il y avait effectivement ces logements sociaux qui sont accessibles effectivement à la couche vulnérable de notre pays, je ne pense pas que les gens aillent acheter un terrain dans l'eau pour pouvoir construire. Et quand il pleut, il y a des problèmes. Donc c'est ça aussi le vrai problème. Donc il faudrait qu'on puisse repenser à l'urbanisation de Lomé, c'est vrai. Mais il faut reconnaître également aujourd'hui que nous avons des nouveaux quartiers. Et ces nouveaux quartiers-là, l'État avait l'obligation de prendre les dispositions avant que les populations là n'aillent s'installer. Et l'autre aspect, on sait que certains quartiers là, il faut reconnaître que l'on ne peut pas habiter au niveau de ces quartiers. Mmh. On laisse faire. Mmh. Les gens achètent des parcelles là-bas parce que vous savez que le fort du Togolais, même quand le Togolais gagne 15 000, le Togolais veut avoir toujours sa propre maison. Mmh. Et dire avoir sa propre maison, bon, les gens sont prêts à tous les sacrifices. Même s'il faut aller acheter dans la mer pour construire, Les gens sont prêts à le faire, mais c'est la responsabilité effectivement à l'État de dire attention, là où vous voulez construire, là, ce n'est pas possible. Et il faut que l'État soit ferme. Mais lorsque nous laissons faire, après il y a les inondations, les populations crient. Mmh. Et qui on met devant? Mais c'est l'État qui est devant parce que c'est les premiers responsables. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec la situation que nous sommes en train de vivre en matière d'inondation dans notre pays, je l'ai dit tout à l'heure une fois encore, il faudrait que, ne serait-ce que essayer de bitumer une seule voie par an hein, dans les quartiers. Je vous dis que les choses vont aller aujourd'hui vers, par exemple, Alenka. Vous ne pouvez pas y accéder vers ce quartier. Parce que vous savez que l'hôpital mère et enfant, c'est vers ce parage. Voilà. Et la plupart des gros camions, quand ils ramassent le sable pour aller voir les tours, ce n'est pas du tout possible. Moi, je crois qu'il faudrait, c'est vrai, on a la responsabilité en tant que population. Mais il faudrait que l'État également soit ferme sur certains aspects et que l'État aide également, ne serait-ce qu'à bitumer, ne serait-ce qu'à verser de la latérite sur les secondes voies pour que la population puisse effectivement circuler.
Jacques évoquait la question de certains comportements hein, des populations aussi qui aussi ne sont pas aussi civiques. Et aujourd'hui, il y a des gens quand même qui utilisent peut-être des sachets. Et des sachets, on verse même d'ailleurs ces sachets ou ces ordures dans les égouts et tout. Et finalement, ça crée aussi des inondations par après. Et donc, il est très important quand même qu'il y ait une prise de conscience au niveau de la population.
Oui, ce que tu dis, c'est intéressant. Mais je pense que c'est pas... je pense que c'est pas une action à mener en amont. Parce que là, on est en train de parler de l'inondation qui est déjà un problème. Et ça veut dire que c'est déjà une conséquence de quelque chose. Donc, je pense que en l'état actuel des choses, ce n'est pas forcément des actions à mener en amont. Mais c'est des actions qu'il fallait mener en aval. Il fallait éduquer la population en aval, et expliquer un certain nombre de choses et le danger que constitue naturellement l'usage de ces plages. De ces sachets plastiques
oui.
Notamment sur l'environnement et à la longue les inondations que ces sachets peuvent poser. Je crois que oui, en même temps, on continue de sensibiliser les populations, de leur dire qu'un certain nombre de comportements ne sont pas bien, il ne faut pas jeter les sachets, il ne faut pas tout ça, mais en même temps, il y a la responsabilité de l'État. Oui, il y a la responsabilité de l'État. Si vous voulez que des gens n'utilisent pas quelque chose, ne leur donnez pas cela. Je crois que dans ce pays, il y a eu un décret, je parle de décret
tout à fait.
Présidentiel, interdisant la fabrication, la commercialisation, tout ce que vous voulez, des sachets plastiques.
Depuis 2011.
Depuis 2011. Voilà, depuis 2011. Il y a eu ce décret. Donc depuis 2011, un peu plus de 12 ans maintenant. Mais ce décret n'est pas appliqué. Mais on est au Togo, ce décret n'est pas appliqué. Il y a des sociétés qui continuent au Togo, ici, de fabriquer des sachets plastiques non biodégradables et des sociétés connues de tous qui importent encore des sachets plastiques non biodégradables et qu'ils déversent sur le marché et qu'ils vendent au vu au sud de tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'il faut accuser les populations? Parce que les populations en ont besoin pour leurs usages de tous les jours. Mais est-ce qu'il faut accuser qui? Les sociétés qui fabriquent, qui importent et qui continuent d'être inspectées, d'honorer leur engagement, à qui on ne dit rien. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un peu de la responsabilité de l'État là-bas. Donc si depuis 2011, par exemple, on a fait appliquer rigoureusement ce décret pris par le chef de l'État, je pense fondamentalement que 10 ans après, on ne serait pas là en train de mener ce débat. Parce que les sachets plastiques, même si on les laissait, elles vont ces sachets, autant pour moi, ils vont se désintégrer et tout ça, et il n'y aura pas de souci aujourd'hui en termes d'inondation et tout. Donc, je ne dis pas que quand on ne va pas utiliser les sachets, il n'y aura pas d'inondation. Mais si tant est que le fait qu'on a jeté des sachets dans les égouts et tout, que ça pose un problème, donc si ces sachets avaient été biodégradables, il n'y aurait pas de souci aujourd'hui en termes de sachets. Donc, là, je dis, il faut que l'État prenne ses responsabilités. On ne va pas faire un travail de Sisyphe. On ne va pas aller et revenir. On n'avancera jamais. Donc, que l'État prenne ses responsabilités, le décret est là, qu'on l'applique rigoureusement. Et si les instructions sont données aux forces de l'ordre et de sécurité, je pense que ça sera fait. Qu'on mène un combat contre la vente, la fabrication et la vente des sachets plastiques non biodégradables, comme on mène un combat contre le combat contre le carburant frelaté, contre les faux médicaments et d'autres produits qu'on combat. Donc, si on mène ce combat-là, je pense que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on tiendra un autre discours.
Les inondations sont des phénomènes environnementaux. Et là, je pense que ça nous donne une transition rapidement pour parler alors des changements climatiques et également de dérèglements climatiques comme on l'écoute ces derniers temps. Et donc, on sait que depuis ce matin, il y a les chefs d'État et aussi les chefs de gouvernement et d'autres institutions qui sont surtout alors dans le domaine de l'environnement et qui tiennent un sommet à Nairobi. Là, nous sommes au Kenya. Et les participants, Jean-Baptiste, les participants à cette rencontre disent que aujourd'hui, ils veulent voir du concret en matière de changement climatique. Ça veut dire que au fait fond, allez, on a toujours pris des décisions, mais finalement, ces décisions ne sont pas mises en application, c'est ça?
Oui, je crois que comme les participants ont commencé par le dire, on doit passer des discours aux actes. C'est ce qui est important maintenant dans nos pays parce que la plupart de ces sommets se déroulent en grand fanfare, mais après, les décisions qui sont prises ne sont pas mises en application, ne sont pas implémentées sur le terrain. La preuve, je crois, c'est COP, c'est pas qui a eu lieu à Paris, je crois, il y a 5 ou 6 ans de ça déjà. Mais aujourd'hui, on avait dit à l'époque de régler, comment la question, de diminuer le réchauffement climatique de 2%.
Justement.
2%, c'est l'échauffement de la planète de 2%, de 2 degrés.
De
2 degrés.
De degrés, voilà.
C'est ça. Donc, maintenant, aujourd'hui, près de 5 ou 6 ans après, qu'est-ce qui se fait réellement sur le terrain après cette COP-là? Qu'est-ce qui se fait? Les discours? Et puis on s'est séparés. Donc aujourd'hui, le Togo, peut-être on peut dire que le gouvernement a commencé par initier une action en ce qui concerne le reboisement, mais ça doit être plus accentué que ça, à mon avis. Ce qui se fait doit être plus accentué que ça. Aujourd'hui, avec les pluies que nous avons, la petite saison n'est pas aussi très pluvieuse. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de pluie. C'est le lieu, par exemple, d'augmenter les espaces à reboiser, les plants. Il faut les multiplier. Et moi-même, j'avais imaginé même un projet, peut-être c'est l'occasion d'en parler brièvement, c'est que les espoirs dans les champs. Dans les champs, on doit mettre les champs à contribution. Les riverains peuvent s'entendre et revoiser les espaces pour que de plus en plus d'espaces soient verts dans notre pays. Donc, c'est des occasions que nous devons profiter avec ces pluies-là. On doit profiter de ça pour reboiser. Et le gouvernement doit quand même mettre beaucoup de plans à disposition, augmenter les pépinières au niveau des privés et puis au niveau du gouvernement même, initier ces pépinières-là au niveau de l'ODEF pour qu'il y ait beaucoup d'espèces qu'on mettra gracieusement à disposition des populations pour intensifier le reboisement à travers tout le pays. Là, je crois que en ce faisant, au moins, notre pays va jouer sa partition en termes de reboisement pour pouvoir reverdir notre espace. Mais l'action solitaire du Togo ne va pas suffire. Il faudrait que les autres États aussi fassent de même pour que, vous savez, le réchauffement, si un pays le fait à vase clos, bon, les autres ne le font pas. Bon, c'est clair. On n'est pas isolé. Le monde, il y a beaucoup d'interactions. Ça veut dire que si le Bénin ne le fait pas, le Ghana à côté, le Burkina à côté ne le fait pas, sûrement que le réchauffement dans l'un ou l'autre va rejaillir sur l'autre pays. Donc, il faudrait que ça soit des actions concertées qui se mènent pour pouvoir lutter réellement contre ce phénomène qu'est le réchauffement climatique.
Jacques, dans sur cette question, est-ce qu'on n'assiste pas à une hypocrisie des décideurs? Finalement, des gens qui viennent à une rencontre, alors on organise des rencontres, on se souvient également des COP, hein, on dit COP, on se rencontre des conférences, hein, lors de ces conférences, et on décide, et c'est pour les beaux yeux même d'ailleurs de ceux qui sont présents, et au finish, c'est fini.
Je suis d'accord avec vous. Quand vous prenez par exemple l'Afrique, l'Afrique a quel problème avec le réchauffement climatique? L'Afrique n'a pas du tout de problème. 2%. Mais le reste là, c'est quoi? Mais c'est les Occidentaux. On se retrouve tout le temps, comme vous l'avez si bien dit, on dit bon, il faut prendre des résolutions, il faut les respecter, mais on ne les respecte jamais. Mais ce qui est aberrant, tout le temps, bon, les Africains aussi acceptent s'associer à ce genre de rencontres. C'est vrai, bon, vous savez, nous sommes presque vers la fin de l'année. Bon, il y a un budget qui est quelque part. Il faut tout faire bon, pour faire les comptes, aider les gens à se déplacer. Sinon, entre nous, l'Afrique n'a aucun problème. L'Afrique n'a du tout aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, quand ils vont se retrouver pour discuter, prendre des résolutions, mais ça sera lettre morte. Les gens ne vont pas du tout mettre en pratique les décisions qui seront prises là-bas. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on cesse quand même l'hypocrisie au sein de l'Afrique et du monde entier, à narguer tout en l'Afrique. Vous prenez par exemple l'Afrique aujourd'hui. Vous allez au Congo, vous allez voir... Mais l'Afrique, il y a de la verdure là-bas. L'Afrique n'a aucun problème. Vous revenez par exemple au Gabon, ces pays-là, mais il n'y a aucun problème. Mais le vrai problème, c'est eux, les Occidentaux. Il faudrait qu'ils nous disent qu'ils vont respecter d'abord ce qu'ils prennent comme résolution. Après tout, je vous dis, tout ce qu'on nous importe effectivement de l'Occident, on vient déverser ça où? Ici en Afrique, mais l'Afrique n'a pas de problème. Donc je crois que ces gens de rencontre, il faut reconnaître qu'il y a trop d'hypocrisie dans cette affaire. Mais il faudrait qu'à un moment donné, l'Afrique puisse prendre également ses positions. C'est vrai que certains pays africains, lorsqu'on convoque ces gens de rencontre, ils n'y vont plus. Parce qu'ils se disent, mais quand ils vont, on prend des résolutions. Eux, ils n'ont aucun problème, ils n'ont aucun souci. Mais c'est les grands pollueurs, au fait, qui devaient prendre effectivement leurs responsabilités. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte effectivement de cette duplicité où on est là tout le temps dans le mensonge pour aller vers le concret. Et mais c'est aux Africains maintenant, au niveau de l'UIA, de l'Union africaine, de se dire, mais écoutez, on n'a aucun problème avec ces gens, mais c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Parce que tout le temps, quand on prend par exemple le cas par exemple du Congo, on prend le bois, vous prenez le bois également au niveau effectivement du Gabon. Mais quand on vous dit le nombre de bois qui sont coupés là-bas, la destination de ce bois, mais vous serez étonné. Vous voyez. Donc, je crois qu'aujourd'hui, sortons de l'hypocrisie. Pour aller vraiment au concret, il faut que les Occidentaux se disent, d'abord, laissons l'Afrique en paix. L'Afrique n'a pas du tout de problème. Les gros pollueurs, c'est nous. Et vous allez voir que la plupart de ces grandes résolutions, de ces rencontres, vous voyez souvent la position des Américains. Vous voyez la position effectivement de la Chine et de l'Inde. Mm. Je crois que l'Afrique n'a aucun problème. Mm. C'est vrai que ces genres de rencontres, ça bénéficie à certains et ça peut aider également à d'autres à avoir quelque chose dans la poche avant de revenir. Donc on ne peut pas s'en prendre à ça.
Voilà. Et Didier, est-ce que vous avez l'impression que déjà cette rencontre de Nairobi va donner quelque chose sur des résolutions pour le changement climatique?
Non, est-ce que vous pensez que les Blancs ont une fois voulu le bonheur des Africains en termes... Tout ce débat-là, ça ne les intéresse pas, non? Si vous disent... S'ils prennent des choses, des résolutions en faveur de l'environnement ou de la protection de l'environnement, tout ce que vous dites là, c'est parce qu'ils savent que si vous ne détruisez pas des choses chez vous, je dis détruisez entre griffes, Ça va leur faire du bien chez eux là-bas. C'est les Occidentaux, ils sont toujours comme ça. Donc, ils ont pris tellement de résolutions. Combien de COP on n'a pas fait? Ils en ont fait avec la COP de Paris. Vous imaginez, vous avez vu tous les tintamarres autour, les dispositions qui ont été prises. Mais qui a été vous avez vu, les États-Unis sont sortis de l'accord très rapidement parce que ça ne leur rendait aucun service. Et vous voyez la France même, chez qui le sommet a eu lieu et on a pris les résolutions. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Des accords signés à Paris et d'autres entités également. Personne ne fait rien depuis cette COP-là également, qui a été la COP la plus médiatisée au monde. Personne ne fait rien autour de ça et des résolutions et de l'accord qui a été signé. Et vous voulez que c'est une réunion qu'on fait à Nairobi qui va avoir de l'impact sur le système mondial.
Et donc, non, ça ne donnera rien.
Le jour où les Occidentaux se rendront compte que telle décision ira dans leur intérêt ou va sauver leur vie, ils le feront, ils l'exécuteront, ils vont sortir les moyens et ils vont mettre en exécution. Mais tant que ça ne les arrange pas, ils ne pourront rien. Donc, nous, Africains, sur le continent et nos dirigeants, ils doivent avoir cela en tête, que les Occidentaux, c'est quand quelque chose les arrange, qu'ils, y a un mot qui me vient, mais je préfère pas l'utiliser, mais si c'est quand ça les arrange qu'ils agissent. C'est quand ça ne les arrange pas, ils agissent pas. Et donc, nous, en allant à des rencontres comme ça, quelle est la position que nous adoptons? Quelle est la stratégie que nous adoptons pour que, quand on y va, la voix de l'Afrique puisse peser et que les volontés, les besoins de l'Afrique puissent être pris en compte? Je ne crois pas qu'on a souvent des stratégies, on y va de façon disparate là, et on va devant le fait accompli, on participe, comme Jacques l'a dit. Bon, chacun a quelque chose dans sa poche et on revient, et tout s'arrête là. Conférence des partis, et on poursuit, on va numéroter les COP, mais en réalité, rien ne sera fait. Après, pour le moment, c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses en Afrique ici, mais nous n'avons pas encore trop de problèmes comme les Occidentaux. C'est quand ils vont finir par tout détruire leur continent qu'ils vont venir peut-être. Peut-être que c'est pour cette logique qu'ils ne veulent pas que nous, on se développe. Donc oui, ça peut se comprendre également. Donc ils veulent rien, ils veulent continuer à détruire chez eux. Et nous, on ne détruit pas, on ne se développe pas ici. Et comme ça, quand ça va chauffer là-bas, ils vont venir ici peut-être.
Alors, nous allons quitter cette question lors de l'environnement et nous allons nous transporter au Gabon. Au moment où nous rentrons en studio, il y a la cérémonie alors de prestation de serment du général Nguessa et Oligui Brice qui se faisait. Et aujourd'hui, c'est vrai que déjà avec le coup d'État, le coup d'État du mercredi dernier au Gabon, il y a quelque chose, il y a la situation même d'ailleurs qui a changé avec les derniers développements même d'ailleurs de cette situation au Gabon. Jean-Baptiste, finalement, on dirait vraiment que l'ère Bongo est passée avec cette prestation de serment aujourd'hui.
Oui, bon, je crois que on peut le dire, sans se tromper, d'un revirement spectaculaire. Après près de 60 ans de règne du père et du fils, avec ce coup d'État qui a eu lieu mercredi dernier, on peut le dire, hein, avec peut-être avec pincettes, que l'ère Bongo est en train d'être passée. Mais avec beaucoup de prudence.
Parce pourquoi
que, prudence parce que vous savez, le général Nguema qui est aux affaires maintenant, on ne sait pas encore le contenu de son message de prestation, mais est-ce que il est militaire? Il est militaire et comme on le dit, le pouvoir est juteux. Et on ne sait pas si, après avoir prêté serment et donné peut-être un agenda pour pouvoir faire sa transition, on ne sait pas si réellement il va céder le pouvoir après cette transition.
Et je pense que c'est vrai que beaucoup l'attendent alors sur le délai de la transition. On veut avoir le nom, enfin l'année ou du moins
durée.
La durée exacte alors de la transition. Mais pour le moment, on n'écoute absolument rien. Oui. Mais il a si bien dit que en fait, il va faire le travail alors d'une nouvelle constitution. Il y a un nouveau code électoral également qui sera mis en place. Il y a la corruption également qui la lutte contre la corruption qui sera aussi accentuée. Là, on dirait quand même que il vient avec des idées nouvelles.
Oui, des idées nouvelles et des intentions. Des intentions, mais l'homme étant ce qu'il est, on ne sait pas si ses paroles seront respectées sur le terrain. Parce que, vous savez, la corruption, comme il le dit, c'est un mal qui gangrène beaucoup de pays africains. Imaginez déjà, après, suite au coup d'État, les arrestations qui ont eu lieu dans le pays et les milliards qu'on a découverts dans beaucoup de maisons.
Plus de 7 milliards en liquide.
Vous imaginez, tout ça là, ça pourrait...
Plus de
700 milliards.
700, oui, c'est ça.
700 milliards.
C'est ça, c'est plus de 700 milliards. Ce n'est pas 7. 700 milliards dans des maisons de gens qui ont collaboré et travaillé avec... le président Ali Bongo, je crois que ça doit nous interpeller. Et ce n'est pas un cas isolé dans beaucoup de pays. En Guinée, quand on avait, fait le coup d'État à Alpha Condé, pareil, on a retrouvé plusieurs milliards, dizaines de milliards, dans d'autres pays aussi. Ça veut dire au Mali, pareil. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est vraiment dommage que quand on est chef d'État, on se permet tout. On croit que on confond la caisse, le trésor public à sa caisse privée. Je crois que ça pose beaucoup de
questions. Mais là, c'est des gens autour du chef de l'État.
Bien sûr. C'est lui qui a favorisé. S'il tape du poing sur la table, alors il lutte effectivement comme Talon le fait à côté au Bénin. Je crois que les ministres ou bien les proches, ceux qui sont aux affaires, ne peuvent pas se permettre le luxe d'avoir des milliards comme ça dans leur domicile. Ça, c'est vraiment comment une lutte que beaucoup d'acteurs politiques dans nos pays africains doivent mener concrètement s'ils veulent vraiment mettre les pays sur les rails du développement. Il faudrait vraiment lutter efficacement contre la corruption. Sinon, beaucoup de citoyens vont en partie parce que, imaginez, ces montants-là peuvent servir à créer des emplois pour des milliers de jeunes. Imaginez beaucoup d'Africains qui mouraient en Méditerranée. Maintenant, avec ces coups d'État, nous ne concernons pas les coups d'État militaires, mais voyez les nombreux milliards, des centaines de milliards qu'on retrouve dans les maisons de tous ces dirigeants qu'on est en train de démettre un à un. Voyez que ces agents peuvent servir à créer beaucoup d'emplois et limiter le flux migratoire vers l'Europe. Donc, la lutte contre la corruption doit être vraiment... la clé de voûte, si nous parlons du Gabon, alors là, ça doit être vraiment un pilier sur lequel on doit, les nouveaux dirigeants doivent agir pour pouvoir assainir le pays et aussi au niveau politique, effectivement, les institutions, on en parle, les coups d'État qui ont eu lieu dans beaucoup de pays africains, surtout ouest africain, c'est que il y a un mal qui gangrène nos institutions parce que les tests sont taillés sur mesure, alors que parfois on dit en droit déjà que la loi doit être impersonnelle, mais beaucoup de constitutions sont taillées pour des individus. Alors que cela ne devrait pas être le cas. Donc il faut vraiment qu'on mette en place des institutions impersonnelles, des institutions fortes pour que la démocratie s'enracine.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Jacques, aujourd'hui, c'est vrai, le général Nguema est en train alors de prester le serment. Là, ça veut dire que le coup d'État est consommé définitivement.
Bon, est-ce que c'est un coup d'État qui a eu lieu au Gabon?
Vous ne pensez pas que c'est un coup d'État?
Non, moi je ne pense pas.
C'était quoi alors?
Non, au fait, le général a bercé le président Ali Bongo, il a dormi et il a pris sa chaise, il s'est assis dessus.
Là aussi, c'est un coup d'État?
Non, c'est pas. Il a endormi, quoi. Il a bercé et puis il est assis. Au fait, c'est ça. Jusqu'à ce que Ali Bongo ne s'en rende compte, quand le somnifère est fini dans son corps, il s'est dit, ah, on a pris son fauteuil.
Exact. Là, il y a renversement de pouvoir.
Bon, non, pas renversement de pouvoir, on peut dire échange de pouvoir.
C'est-à-dire ah bon?
Que, oui, ils ont échangé le pouvoir, parce que quand vous voyez à peu près ce qui s'est passé là-bas, on ne sent pas du tout, vous avez vu, on n'a pas tiré aucun fusil, pour le moment, ce qu'on a commencé par arrêter, vous voyez que au fait c'est le clan, c'est-à-dire d'abord c'est les enfants de l'autre, les proches qu'on a commencé par arrêter, au fait c'est ça, donc je crois que et il faut reconnaître, c'est en ça qu'il faut que vous prenez les régimes qui sont au niveau de l'Afrique centrale là-bas. Les gens comme les Sassou Nguesso, les gens comme les Paul Biya, les gens comme les Teodoro Obiang. Il faut reconnaître que s'il doit y avoir changement, j'ai suivi un peu le général. Quand il a reçu les journalistes, il a expliqué de comment les choses sont passées. J'ai compris que le changement avec ces régimes qui durent, il faudrait que quelqu'un de la maison qui puisse opérer ces changements-là. C'est ce que j'ai compris dans ce qu'il a fait. Parce qu'il se dit que si c'est par exemple les élections, ça ne peut jamais passer. Mais il faut effectivement un coup de force pour que effectivement le changement puisse naître. Mais ça ne devait pas être comme ça pour mon Afrique. Vous voyez, je l'ai suivi religieusement, j'ai écouté beaucoup ce qu'il a dit. Et c'est là que j'ai compris que, au fait, donc, quand souvent on organise les élections en Afrique, on constate le constat. Ça, c'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Il dit souvent.